Radio Okapi.
À la présentation du journal, Belinda Boussouma. Prestation de serment des trois juges de la Cour constitutionnelle. C'est pour demain, d'après la présidence de la République. Cependant, Tambwe Mwamba et Mabunda se disent non en mesure d'organiser cette cérémonie demain. Mais côté cash, on invite la population à soutenir cette cérémonie. Attaque ce matin de la prison centrale de Kangbaye à Beni. Plus de 1300 détenus évadés. Parmi eux, des ADF et des Mai Mai. La police est en pleine récupération des évadés, mais un détenu est mort lors des échanges des tirs entre l'armée et les assaillants. Et puis, l'invité de ce journal, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La CENCO appelle le peuple congolais à un éveil de la conscience vu la tension sociopolitique observée dans le pays. Appel lancé à l'issue de la dernière assemblée plénière de la CENCO. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est en principe demain la cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle telle que fixée par le protocole du président de la République, cérémonie qui doit avoir lieu au Palais du Peuple à 11h. Cependant, les présidents des deux chambres du Parlement disent ne pas être en mesure d'organiser cette cérémonie demain dans une correspondance adressée aujourd'hui au chef de l'État. Alexis Tambwe Mwamba et Jeannine Mabunda affirment cependant être disposés à poursuivre les échanges avec le président de la République à ce sujet et pour matérialiser cette position du bureau qui conteste les nominations du chef de l'État, les députés du FCC viennent d'attaquer en justice les récentes ordonnances nommant les juges de la Cour constitutionnelle. Écoutez à ce sujet le député François Nzekouye, cadre du FCC.
Il n'y a pas de nouveau juge de la Cour constitutionnelle à part celui qui remplace Luamba. Tous les autres sont des pseudo-juges constitutionnels et ils ont été nommés en violation de la Constitution et nous ne les considérons pas comme juges constitutionnels. Nous venons d'attaquer la décision du président de la République à la Cour constitutionnelle en demandant l'interprétation de l'article 158 de la Constitution parce qu'il n'avait le droit de remplacer qu'un seul juge à ce stade. Il s'agit de Luamba qui a démissionné. Faisons appel à l'opinion nationale internationale. Que la cérémonie de demain, il n'y aura aucun député du FCC. Mais nous savons déjà que ces officines sont en train de confectionner les concarts des députés sénateurs, les costumes. Ils vont faire remplir la salle des congrès avec des pseudo-parlementaires pour donner l'impression à l'opinion que les parlementaires sont présents à cette cérémonie. Nous la dénonçons et nous appelons le président de la République au bon sens.
Et pendant que le FCC boycotte la cérémonie de prestation des serments des trois juges de la Haute Cour, les préparatifs évoluent plutôt normalement et le cash invite la population à soutenir massivement cette cérémonie. Pour Christophe Lutundula de l'opposition Lamuka, le Parlement n'est pas habilité à organiser cette cérémonie. Il invite donc tous les députés à éviter une crise politique artificielle et promet de participer à la cérémonie de demain, comme fixé par le protocole du président de la République. Christophe Lutundula.
Quand je lis l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il est clairement établi que la cérémonie se fait en deux phases. La première phase, c'est la présentation des magistrats nommés à la nation. Nous sommes députés, sénateurs, présidents, bureau du conseil, des témoins de cette présentation. Donc ce n'est pas une séance parlementaire. La deuxième phase, c'est la prestation des serments. Et le serment n'est pas présenté devant nous, encore moins devant nos deux bureaux. Ceci est tellement vrai que depuis lors, la cérémonie de prestation de serment est en fait officiée par le bureau du président à travers le protocole d'État. De ce point de vue, la présence de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, elle est souhaitée, elle est républicaine, mais je ne pense pas qu'elle fait de la cérémonie une séance parlementaire. Et même nous les députés, chacun peut décider de ne pas y être. Je conseille à l'opposition la voie de la raison juridique, j'ose le dire.
Ce dossier est signé Michel Kifindangoy. Province du Sud-Ubangi, cette guerre des communiqués, le MLC de Jean-Pierre Bemba a annoncé hier le retrait de ses 7 députés provinciaux du G17. Et cela fait suite aux incidents et déclarations qualifiées d'incendiaires qui opposent le MLC au CDR de Jean-Lucien Boussa depuis le week-end dernier. Cependant, cette décision risque de brouiller les rapports qui étaient au beau fixe entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial. C'est ce que nous dit Paul-Richard Malengela.
Dans sa déclaration politique faite ce lundi par voie de presse à Guémena, le président fédéral du MLC, Chudu Bangui 1, a lancé un ultimatum aux députés provinciaux de son parti. Il leur a demandé de se prononcer chacun dans 48 heures sur les propos jugés discourtois prononcés la veille à l'endroit de leur leader Jean-Pierre Bemba. Il s'agit notamment des allégations de tentatives d'incendie du siège du parti CDR par des militants du MLC. Une affaire qu'il a considérée de monter de toutes pièces en vue d'attirer simplement l'attention de l'opinion nationale et internationale. Mais jusque-là, indique nos sources à Guémena, aucun député provincial MLC n'a encore réagi à ce mot d'ordre du parti. Celui-ci voudrait également que ces députés MLC quittent le G17, coalition qui soutient jusque-là le gouverneur de province Jean-Claude Mabenzé du CDR. Toujours ce lundi, le communicateur provincial du CDR est intervenu par point de presse. Serge Linzabé a vite infirmé officiellement la responsabilité quelconque du MLC dans cette affaire. Toutefois, il a promis que son parti, le CDR, a saisi la justice afin de tirer les choses au clair. Bandaka, Paul Chamalingela, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, attaque tôt ce matin de la prison centrale de Kangbaï dans la ville de Beni. Les assaillants lourdement armés, identifiés aux rebelles ADF, ont d'abord attaqué la position des FARDC sur la colline de Lao, ensuite la prison. 1335 détenus, dont des combattants des groupes ADF et des Mai Mai, se sont évadés. La police est en pleine récupération des évadés. Pendant ce temps, certains se rendent volontairement après avoir échappé aux mains des assaillants. Des précisions avec Marc Marofimbo.
D'après les témoignages des détenus retrouvés dans la prison, c'est vers 4h du matin qu'ils ont attendu les ronronnements des groupes électrogènes avec une meuleuse alors que les assaillants coupaient les cadenas de la prison au niveau de la porte principale. Il s'ensuivra des tirs à l'arme lourde et légère. Les assaillants, avant de partir, ont ordonné à tous les détenus de vider la prison. Ceux qui sont restés ont été sévèrement fouettés. Finalement, les assaillants ainsi que les détenus libérés ont pris la direction sud-est de la ville. Et c'est à court de route que quelques-uns, majoritairement des militaires, qui ont commencé à résister, ont pu être récupérés par la police qui était à leur trousse. Le maire de la ville de Beni, qui est arrivé sur les lieux, a demandé à la population d'aider à retrouver les détenus qui se cacheraient dans les quartiers. Modeste Bakwanamaha.
Nous voulons que vos médias nous aident à sensibiliser les habitants. Un détenu qui resterait dans un quartier alors qu'il est poursuivi pour des faits graves, nous voudrions qu'il accepte de revenir à prison pour que le jour qu'il quittera la prison, il quitte par la voie indiquée, la voie normale.
Signalons que sur les 1456 détenus, seuls 121 étaient dans la prison ce matin. Un détenu est mort lors des échanges de tirs, d'autres sont blessés. Il faut ajouter qu'une trentaine de détenus libérés a commencé à regagner la prison. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et en réaction à cette évasion à la prison centrale de Beni Kangbaï, la société civile de Beniville exige que des enquêtes soient diligentées pour établir les responsabilités. Kizito Bin Angi plaide aussi pour l'amélioration des conditions des détenus de cette maison carcérale. Le président de la société civile de Beniville est au micro de Sekombi Katondolo.
Donc, au niveau de la société civile, nous pensons que l'État doit être aussi responsable. La prison qui héberge des criminels, des ADF, des Maïmaï, devrait être bien sécurisée pour que les assaillants ne puissent pas venir libérer ces détenus. Mais aussi, l'État pourrait également nous aider à améliorer la condition carcérale des détenus. Cette situation pourrait aussi être à la base de mécontentement des prisonniers. Donc, nous pensons que de ce côté, il faut quand même qu'on diligente les enquêtes sérieuses pour aussi voir les responsabilités des uns et des autres, mais également connaître l'identité des assaillants qui sont venus libérer les détenus, afin aussi de les dénicher, au possible, les arrêter. C'est ça notre souci. Il faut que ces gens soient arrêtés et déférés devant la justice.
Entre-temps, dans le Maniema, plus de 400 détenus qu'héberge la prison centrale de Kindu vivent sans assistance. C'est depuis janvier dernier que le gouvernement central a stoppé d'apporter sa subvention à cette prison, affirme le ministre provincial de la Justice dans une interview à Radio Okapi. Les locataires de la prison centrale de Kindu ne vivent qu'avec l'aide du gouvernement provincial, une aide insuffisante d'après Samba Mwana Samba qui demande l'indulgence du gouvernement central. Le ministre provincial de la Justice au Maniema est au micro de Florence Kiza.
À la prison centrale de Kindu, il se pose un grand problème. Les prisonniers se plaignent à tout moment pour n'avoir pas trouvé à manger. Et s'il faut rappeler au gouvernement central, depuis janvier 2020, nous avons eu la subvention venant de Kinshasa et jusque là ça ne vient plus. Et cela nous met devant une difficulté de gérer les prisonniers. Alors pour éviter le pire, nous sollicitons encore l'indulgence du gouvernement central d'avoir pensé aux prisonniers de la ville de Kindu. Vraiment, il y a beaucoup de soulèvements. Chaque fois qu'ils manquent à manger, ils se soulèvent. Ils ont même tendance de jeter des cailloux et autre chose. Vraiment, c'est une situation qui nous agace ces derniers temps. Ils sont à plus de 400 prisonniers qui ne trouvent plus à manger. Le gouvernement provincial s'arrange de donner quelque chose. Chaque fois, la directrice de la prison centrale vient voir le gouverneur de province et il donne en cas de disponibilité. Mais quand le gouvernement provincial manque, vraiment, il n'y a que des soulèvements.
Direction l'Ituri, un mouvement important des populations est enregistré dans plusieurs villages, des écoles fermées, des malades abandonnent les lits d'hôpital. C'est la conséquence de l'insécurité caractérisée par des violences qui s'observent actuellement dans le territoire d'Irumu. Le week-end dernier, 13 personnes ont été tuées dans un conflit communautaire à Bakadinda, perturbant la circulation sur la route nationale numéro 27. La société civile locale demande aux autorités de prendre cette situation au sérieux. Martial Kiza.
Environ 3000 personnes ont déjà fui leur village depuis les samedis derniers dans les territoires d'Irumu. Il s'agit notamment des Barabo, Irumu Centre, Ngalula, 1, ED, Mangiva et Maindiba, situés le long de la route nationale numéro 27 sur l'axe Bunyakomanda. Selon la société civile d'Irumu, ces populations fuient des violences communautaires dans leur milieu et l'activisme des groupes armés, dont FPIC et les groupes d'autodéfense Zaïr. Son président Guiligo Tabo indique que ces familles se dirigent vers Komanda et dans la périphérie de Bunia. D'après la même source, dans plusieurs structures médicales à Marabo, Irumu Centre et Miakoundé, deux malades ont abandonné les lits de l'hôpital par peur d'être victimes des exactions de ces hommes armés. Toutes les écoles ont presque fermé suite à l'insécurité dans la zone. La société civile d'Irumu plaide pour une intervention rapide des autorités. Les porte-parole de l'armée à l'Ituri indiquent qu'un dispositif important des forces loyales liste est déjà déployée dans la zone pour prévenir toute éventualité. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Merci de nous écouter à Bukavu. Ici, nous apprenons que deux cas d'incendie des maisons ont fait plusieurs victimes, dont 7 blessés graves et plus de 20 maisons calcinées. Cela s'est produit simultanément hier dans deux quartiers de la commune de Kadutu. Le camion anti-incendie n'a pas pu avoir accès au lieu des drames suite aux constructions anarchiques. Toutefois, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, mais les familles victimes sont restées sans abri. Michel Chirimwami.
Selon le président de la société civile Kadutu, le feu a débuté vers 14h et a pour origine au quartier Mossala un gros générateur mal installé. La flamme a vite joint les maisons voisines estimées à 20. Les habitants ont d'abord eux-mêmes procédé à l'extinction du feu avant de voir le camion anti-incendie venir aider. On a connu 5 personnes blessées, dont 3 graves. Tous les biens contenus dans les habitations sont partis en fumée. Pour le cas du quartier Nkafu, ce rapport de la société civile fait état de plus de 7 maisons parties en fumée et 4 détruites pour empêcher l'extension du feu aux autres habitations. La société civile regrette ces nouveaux chiffres qui s'ajoutent aux multiples victimes du feu à Kadutu. Interroger le bourgmestre de Kadutu nous renvoie au secrétaire administratif de la commune qui déplore ne pas avoir encore les rapports des chefs de quartier concernés. Mais dit-il, les incendies sont dus au mauvais état de l'habitat, aux constructions anarchiques, aux mauvaises habitudes de conserver du carburant dans les maisons, souvent construites en planches et très rapprochées. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Actualité internationale. Présidentielle américaine en Floride, le plus grand des états clés de la présidentielle. Le président sortant et le candidat démocrate sont au coude à coude dans les sondages. Près de 30 millions d'Américains ont déjà déposé leur bulletin de vote pour le scrutin du 3 novembre, alors que les électeurs de Floride se sont amassés lundi devant les bureaux de vote au premier jour du vote anticipé dans cet état considéré comme crucial pour l'issue du scrutin. Présidentielle en Côte d'Ivoire cette fois, la mission ministérielle de la CEDEAO a clôturé hier sa mission des deux jours. Lors de sa déclaration finale, la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé à la retenue, mais aussi invité Pascal Afinguissan et Henri Conan Bédier, tous les deux candidats à la présidentielle, à reconsidérer leur mot d'ordre de boycott du processus électoral et de désobéissance civile.
L'invité.
peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. C'est le titre du message des archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ce message adressé à la population congolaise sanctionne la 57e assemblée plénière de la CENCO. Pour en parler, nous recevons l'abbé Donatien Cholet. Le secrétaire général de la CENCO répond aux questions d'Enoch Matondo.
Monsieur l'abbé Cholet, bonjour.
Bonjour.
La 57e assemblée plénière des évêques membres de la CENCO a eu lieu. Dans cette assemblée, il y a eu un message des évêques. Dans ce message, il y a eu un passage « Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté ». Beaucoup de personnes, en tout cas, des Congolais, bien sûr, n'avaient pas compris ce message. Est-ce que on peut avoir en quelques lignes des éclaircissements sur ce message?
Eh bien, c'est le titre même de ce message. Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Les évêques partent du constat malheureux alors, malgré leurs différents appels aux alliés de la coalition, au pouvoir de cesser leur querelle intestine afin de se consacrer à travers pour la population. Mais ils sont peinés de voir que la situation va de mal en pis, alors que le pays est au bord de la faillite, on observe plutôt une guerre de positionnement par rapport aux élections de 2023 en cherchant à contrôler la CENI et à prendre des positions de réforme que le peuple congolais n'attend pas. Et au regard de tout cela, les évêques ont pensé s'adresser principalement au peuple congolais parce que ils sont convaincus que la situation de ce pays changera à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour demeurer au pouvoir ou y accéder, ils doivent servir les intérêts de la population. Sans cela, tout se fera pour leurs intérêts partisans. Donc, il s'agit d'un message, je dirais, de mobilisation de conscientisation de la population à être un peu plus responsable. Le message finit justement par une série d'exhortations, notamment la à sortir de notre torpeur, de demeurer vigilant sur le respect de la Constitution, notamment sur les articles verriers, et aussi que sur l'indépendance réelle du bureau de la CENI et de la magistrature. Ça, c'est très important parce que si on met en place un bureau visiblement établi pour défendre les intérêts des uns ou des autres, le peuple congolais ne se retrouvera pas. Voilà pourquoi les évêques appellent le peuple d'agir de façon à empêcher toute tentative de confiscation que notre droit de choisir nos dirigeants et de nous prononcer sur le destin de notre pays. Ils évitent que la population a résisté à tout prix pour défendre les intérêts dans le bien-être du peuple congolais. Voilà en gros cela, mais pacifiquement alors.
Et que doit faire le peuple? Donc comment doit-il réagir selon ce message?
Il ne s'agit pas pour la CENCO d'envoyer les gens faire la révolution, une révolution violente, non. Il s'agit de monter des stratégies de mobilisation pour que les politiques comprennent que ce n'est plus le moment d'imposer au peuple n'importe quoi.
D'autres ont compris ce message que la CENCO veut dire au peuple de se rebeller contre le pouvoir en place ou contre ses dirigeants.
Il ne s'agit pas de la rébellion, mais il s'agit d'une prise en charge responsable et pacifique. Il y a lieu de faire des choses pacifiquement, de faire comprendre les choses pacifiquement. Et alors, si les politiques veulent aller dans un sens d'un bras de fer avec la population qu'ils représentent, alors ils porteront la responsabilité. Mais nous sommes convaincus que, après avoir écouté ce message des évêques, les politiciens feront un effort pour être attentifs aux cris de la population et de réajuster leur comportement par rapport à cela. Voilà tout ce qu'on attend comme résultat de ce message.
Oui, monsieur l'abbé, une dernière question. Est-ce que, après avoir lancé ce message, la CENCO va laisser comme ça ou il y aura d'autres réunions pour faire suivre ce message et aussi faire pénétrer ce message à la population?
Le message est lancé par les évêques membres de l'Assemblée plénière de la CENCO et la CENCO a aussi d'autres organes techniques pour donner vie, pour donner corps, pour relayer le message de la CENCO. On a des communautés ecclésiales de base. Donc, comme je vous ai dit, on a sensibilisé aussi les acteurs, d'autres acteurs de la société civile. Nous pensons que si les leaders, les vrais leaders de la population comprennent les enjeux actuels, ils n'hésiteront pas à suivre le conseil des évêques.
Merci, monsieur l'abbé Cholet.
Je vous en prie.
Voilà, notre invité, le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet, répondait aux questions de Enoch Matondo Vuezolo. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, supervisé par Axel Goncho, coordination de Noëlla Luzi Tukabambi et la mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Radio Okapi.